Bien, chers amis, le temps passe et je rends mes présentations plus concises. Donc, Thomas Clair, qui est écrivain et maître de conférence à l'Université de Paris 10, qui a publié, pour ce qui nous intéresse aujourd'hui, quelques livres mémorables, notamment allant du plus intime, c'est-à-dire son logement dans la ville, avec intérieur, une description exhaustive de son petit refuge du 10e arrondissement, auquel il a consacré par ailleurs un ouvrage extensif, Paris Musée du 21e siècle, 10e arrondissement. Il va nous parler aujourd'hui, si je suis bien informé, de la suite de cet ouvrage, de l'ouvrage qui va le suivre et qu'il va consacrer au 18e arrondissement vers lequel il a effectué une transhumance dont il nous parlera. Merci.
Merci beaucoup Jean-Louis Cohen. Je te remercie donc de m'avoir invité à parler donc de ce projet futur littéraire donc et qui est la poursuite de mon exploration parisienne, puisqu'en 2007 donc j'avais déjà fait paraître le 10e arrondissement qui était le premier jalon d'une description que j'espère intégrale de Paris. Mais évidemment, il y a une lenteur de réalisation, comme on dit en architecture, un retard de livraison dans le programme. Puisque en effet, il y a 14 ans que j'ai publié ce premier volume, et comme il me reste 19 arrondissements à traiter, j'ai calculé que cela ferait donc 200, il me faut 266 ans pour mener à bout mon programme. Et donc au 23, je vous donne rendez-vous au 23e siècle, mais bon, j'espère quand même réduire les intervalles temporels entre les arrondissements. Alors cela est dû évidemment à une multiplicité de projets et à un goût pour la totalisation, bon, qui est à la fois honnête et malhonnête, pour reprendre l'expression de tout à l'heure. Le mot enquête rime avec honnête, mais il rime aussi avec malhonnête, donc c'est problématique. Et effectivement, d'ailleurs, mon prochain livre est également spatialisé, puisqu'il s'agira de Cave, qui va sortir au mois de septembre. Livre lapsus, puisque dans Intérieur, je me suis rendu compte quelques années après que j'avais oublié de décrire ma cave. Et donc, je me suis attelé à ce projet les trois dernières années, ce qui explique les lenteurs aussi, les retards dans la description en extérieur, finalement. Bon. Alors, j'avais d'ailleurs initialement voulu décrire le deuxième arrondissement, car j'avais pensé tout benoîtement qu'il fallait que le deuxième vienne en second, en quelque sorte. Je trouvais ça plus logique. Et j'avais même accumulé, il y a quelques années, une documentation dans ce quartier. Et puis finalement il sera donc consacré après Cave. Là je suis actuellement, c'était un projet en cours, donc vous excuserez un peu le caractère un peu décousu de mes propos, hein. Mon livre sera consacré donc in fine au 18e. C'est pour ça que j'ai intitulé cette petite communication 18e au 21e, ce qui fait d'ailleurs le chiffre 1821 et qui, comme vous n'ignorez pas, est la date de mort de Napoléon, et comme une bonne nouvelle n'arrive jamais seule, c'est aussi la date de naissance de Baudelaire. Donc c'est assez étonnant d'ailleurs de voir qu'ils ont été contemporains quelques jours entre les deux. Bon. Donc parce qu'il y a toute une poésie du chiffre que j'aime introduire notamment dans mes textes. Alors pourquoi décrire le 18e arrondissement ? Eh bien pour une raison subjective qui est, tu l'as indiqué Jean-Louis, que j'ai déménagé en 2018, il y a 3 ans déjà, donc passant du 10e au 18e. Et j'exclus un petit séjour entre les deux de 100 jours, autre référence à qui vous savez, dans le 14e arrondissement. J'étais entre deux appartements et j'ai évidemment pris des notes aussi pour un 100 jours dans le 14e peut-être, mais on verra ça plus tard si vous voulez bien. L'autre raison objective, et elle nous concerne tous cette fois, c'est que comme vous le savez, depuis 14 mois, nous sommes sous cloche à cause du confinement. Et c'est une période qui m'a assez déprimé. Personnellement, je l'ai assez mal vécu. Et donc, je me suis dit que j'allais essayer de ruser avec cette événementialité pénible, et donc d'utiliser, de retourner la contrainte qui nous était faite de rester chez nous, au fond, et donc de l'utiliser comme contrainte topographique. Et je me suis dit que j'allais décrire mon arrondissement depuis donc 14 mois, je suis dedans, en fait, et d'utiliser la contrainte finalement politico-sociale et sanitaire pour pouvoir déambuler. Alors en trichant un peu, parce que le 18e arrondissement est un arrondissement assez vaste, il fait 6 km2, je ne pouvais, donc normalement on devait rester dans un... circonférence de 1 km, voilà, mais j'ai triché, car, comme je le disais tout à l'heure à Yvan Jablonka, je considère que la littérature, quand elle intentionnalise son honnêteté, est toujours suspecte, et quand elle ne l'intentionnalise pas, c'est ce que je disais tout à l'heure, au fond, pour moi, il y a une forme de mensonge dans la littérature, et de tricherie, de petite tricherie, de malhonnêteté, et je crois que c'est ce caractère de malhonnêteté, au fond d'ailleurs, qui m'émeut profondément dans la littérature. Et que là, évidemment, il y a deux tendances fortes antinomiques. Nietzsche disait de Rousseau qu'il était un menteur, etc. Je vous renvoie à tout ça. Bon. Donc, j'ai triché, j'ai essayé d'explorer, d'aller au-delà des limites qui m'étaient imparties. De ruser pour ne pas dépérir aussi, car c'était quand même assez pénible et c'est une situation qui n'est pas terminée. Donc cette double raison m'a poussé à arpenter mon nouvel arrondissement depuis 14 mois, donc arrondissement que j'habite donc depuis 36 mois. En restant fidèle à ma méthode qui est triple, qui est une méthode donc à la fois de documentation, d'écriture et de déambulation. Une déambulation, évidemment, une déambulation maximale dans l'arrondissement, avec prise de notes et réécriture a posteriori, et aussi une documentation. J'en profite d'ailleurs pour lancer un appel d'offres, au sens où je suis preneur de tout témoignage, récit, souvenir, anecdote, analyse de gens qui ont vécu, alors peut-être c'est le cas de certains d'entre vous, dans le 18e arrondissement, ou de gens qui ont un lien fort à cet arrondissement. Et ça m'intéresse parce qu'évidemment, comme vous le savez, j'ai un côté un peu pillard aussi. Je pense que la littérature se fait toujours avec les autres, contraint ou forcé. Alors là, je vous indique que finalement, ça m'intéresserait d'avoir des échanges avec vous si, bien entendu, l'arrondissement en question vous parle, bien entendu. Puisqu'il y a toute une technique aussi dans cette déambulation, notamment de captation, par exemple, de rencontres que je force dans les rues, etc. Je vais notamment maximaliser cette tendance qui est d'entrer en contact avec des gens. Bon. Donc, voilà. Alors, je termine cette petite introduction en indiquant que ce lieu que je suis en train de décrire, donc depuis à peu près 14 mois, en parallèle avec la fin de l'écriture de Cave, je vais très paradoxalement également sans doute le quitter. C'est-à-dire que je vais, une fois que j'aurai terminé le 18e arrondissement, je vais partir, et donc tel Orphée, je vais jeter un regard sur cet endroit que je compare donc implicitement aux enfers. Bon. Pourquoi ? C'est pas exactement, on en parlera peut-être. Car avant de déménager à nouveau, donc dans plusieurs mois, je pense, quand j'aurai terminé ce projet, je vais revenir donc sur mon déménagement antérieur en 2018 et qui m'a conduit donc plein nord du 10e au 18e, puisque j'habite le 72e quartier administratif de Paris, c'est-à-dire le quartier de la Chapelle, Marx-Dormois, qui est donc un des quatre quartiers du 18e arrondissement. Je vous ai donné cette petite carte par goût du personnel du papier, et puis pour j'ai un peu circonscrit ce quartier de la Chapelle. Ce déménagement a obéi chez moi à un goût pour le changement, qui d'ailleurs n'est pas un goût excessif, dans la mesure où, ayant toujours vécu à Paris, j'ai 55 ans, je n'ai vécu que dans 5 arrondissements, chronologiquement, le 16e, où je suis né, le 5e, le 11e, le 10e donc, et le 18e, et je ne compte pas donc les 100 jours dans le 14e, enfin bon, je les compte quand même, mais c'est un peu différent. Désir de déménagement donc, qui est lié aussi à un désir de m'agrandir, de multiplier la surface du petit appartement décrit dans l'intérieur, qui faisait 50 mètres carrés, et puis donc d'échapper aussi à ce livre intérieur, est un livre évidemment assez étouffant à écrire, et j'en avais vraiment assez, il fallait que je sorte de cela. Et donc de jeter aussi, bien sûr, en déménageant, les bases ultérieures d'un nouveau projet descriptif, et donc d'augmenter la connaissance du territoire parisien, puisqu'il y a de larges zones que je ne connais pas, comme tout bon parisien d'ailleurs, il y a d'énormes zones où je ne mets jamais les pieds. Et donc j'avais envie de découvrir ce 18e que je ne connaissais que par source indirecte. Mes grands-parents y vivaient rue Ramey de 1940 à 1990. Bon, mais j'allais leur rendre visite de temps en temps, mais enfin bon, c'est quand même pas une connaissance de premier plan. Ce qui motive également le déménagement, alors je reviens un peu sur l'infrastructure, si vous voulez, du projet, c'est aussi le désir de changer de type d'habitat. Et en effet, je suis passé de l'appartement d'intérieur, qui était un immeuble de la fin du 18e, à peu près contemporain de la Révolution, un immeuble d'ailleurs très très modeste, hein, à un immeuble années 70, et dans lequel j'habite donc actuellement, ce qui, pour moi, est une nouveauté forte, car c'est la première fois que j'habite dans du moderne, et donc je suis passé de l'ancien au moderne. Je rappelle statistiquement qu'à Paris, seuls 18% de l'habitat est construit après 1974. Alors, c'est-à-dire, bon, je ne vous apprends rien, hein, que Paris est une ville ancienne, 80%, disons, enfin, au moins 62% avant 49, et 20% de 49 à 74, et 18% à partir de 74. Avec des découpages historiques, d'ailleurs, étranges, mais enfin, sur lesquels il faudrait s'interroger. Mais bon, donc, comme vous le savez, évidemment, hein, Paris est une ville ancienne. Or, j'ai eu le désir de changer, et je décrirais cela par la figure rhétorique du chiasme. Je dirais que plus jeune, j'habitais dans du vieux, et que désormais, plus vieux, j'habite dans du jeune. Et cette figure du chiasme, qui correspond à une sorte d'autoportrait, si vous voulez, elle me semble définir un type conceptuel que j'appellerais le vieux moderne. Et alors là, je vous laisse réfléchir à cette question, car c'est une figure qui me semble assez emblématique de notre temps. Je ne creuse pas cette question, mais je vous la... Et de notre pays également. Voilà, notre pays comme vieux moderne. Et au sens où la modernité aurait finalement, pour nous, je crois, un parfum rétro, à la fois sur le plan esthétique et politique. Bon, mais je n'en dis pas plus. J'aime bien cette question de vieux moderne. Enfin, elle me semble intéressante à creuser. Voilà. Bon, bref, j'habite désormais dans une résidence qui est située, si vous voulez tout savoir, rue Marc Séguin, qui, comme vous le savez, est l'inventeur de la chaudière tubulaire. Et c'est une résidence donc, qui a été construite en 1972. Et donc, j'ai déjà cité le chiffre 72, 72e quartier administratif de Paris. Et 1972, ce chiffre 72, qui est un chiffre emblématique et climatérique pour moi, qui revient à plusieurs reprises. Donc cela me donne une satisfaction, disons, relative, mais c'est surtout me sert de base pour mon projet descriptif. Alors, il convient peut-être, avant de parler justement de l'infrastructure de ce projet, de définir les raisons pour lesquelles j'ai choisi ce quartier précisément, le quartier de la Chapelle, si on adhère à la thèse sartrienne du choix d'existence. Mais bon, comme me le dit plus brutalement un ami, qu'est-ce que tu es allé te fourrer là-bas ? Alors, je vais donner... trois raisons, parmi d'autres. Une raison qui est objective, qui est que la Chapelle est le quartier le moins cher de Paris. Et que le 18e arrondissement est le plus pauvre de Paris en termes de revenu fiscal médian, puisque ce revenu fiscal médian par ménage est de 27 600 euros par an, ce qui place le 18e arrondissement comme le dernier des 20 arrondissements. C'est-à-dire que mon désir d'agrandissement que j'ai mentionné tout à l'heure était enfin réalisable dans la mesure où le quartier était à portée de ma bourse et que en 2018, au moment où j'ai acheté cet appartement, le prix moyen du mètre carré à la Chapelle était quand même déjà de 9000 euros du mètre, ce qui est évidemment très, très élevé, et que j'ai visité 72 appartements, encore ce chiffre 72, je me suis arrêté à 72 parce qu'au bout du 72e, j'ai trouvé une bonne affaire, puisque j'ai acheté cet appartement à 6500 euros du mètre. C'est-à-dire que là, j'ai en quelque sorte vengé mon père, qui est un homme d'affaires ruiné, qui s'est ruiné en 1972. Bon. Et donc, voilà, ce qui fait qu'il y a une raison financière et finalement politico-sociale qui est que cet arrondissement était à la portée de ma bourse au sens où je voulais m'agrandir. Et j'ai donc choisi ce quartier de la Chapelle pour une raison qui est que c'est un quartier relativement peu cher par rapport au reste de Paris, mais évidemment qui reste exorbitant par rapport à une norme sociale, puisque je le rappelle, en 20 ans, le prix du mètre carré a augmenté de 248% à Paris. Ce qui est pour moi le véritable problème parisien, en fait. et je dirais presque le problème principal. Et c'est à ce moment-là que j'adhère à la notion de littérature de terrain, au sens où l'infrastructure, comme on disait autrefois, détermine la superstructure. Enfin, c'est-à-dire que je balaye du coup tout ce que j'appelle les faux problèmes, et notamment un faux problème, par exemple, mais qui n'en est pas un pour mes congénères parisiens, qui est le faux problème de la propreté, par exemple, me semble-t-il. Problème qui est pourtant jugé comme essentiel par nos édiles, et à quoi j'ai quand même un argument imparable, qui est le suivant que je vous donne. Autrefois, Paris était sale, mais Paris n'était pas cher. Aujourd'hui, Paris est toujours sale, mais Paris est devenu très cher. Autrement dit, nous perdons sur tous les tableaux au fur et à mesure que nous progressons. Bon, voilà. Alors, autre raison, cette fois-ci plus subjective du choix de cet arrondissement, c'est, vous le voyez sur le plan, son caractère d'enclave. Alors ça, c'est quelque chose qui m'a attiré, je dirais, positivement pour aller dans ce quartier. Il y a une poésie de l'enclave pour moi, alors là, en ce sens qui est très subjectif, on le constate car ce quartier de la chapelle Marx-Dormois est de fait enclavé. Il est bordé à l'ouest, vous le voyez sur la carte, par les voies ferrées de la gare du Nord, et à l'est par les voies ferrées de la gare de l'Est. Il est en quelque sorte pris en tenaille. Au sud, vous avez le boulevard de la chapelle, et au nord, le boulevard Ney, les entrepôts et le périphérique, qui fait qu'il y a une sorte de fermeture forte du quartier, qui est quand même relativement rare, je trouve, à Paris, mais ça, on pourrait en discuter, au sens où Paris est une ville, c'est vrai, clôturée, mais dans laquelle il y a une fluidité, je trouve, un circulus assez, assez grand, et il est assez facile quand même de se déplacer dans Paris. Ici, c'est plus compliqué. Marx-Dormois est vraiment un quartier dans lequel il faut pouvoir sortir, en quelque sorte. Alors, ce qui m'a attiré, paradoxalement, c'est à la fois bon, ce goût, évidemment, pour les espaces clos, décrit dans l'intérieur, ce goût pour les frontières et pour la méthode d'exploration, puisque ma méthode d'exploration de Paris, qui en vaut une autre, qui n'est ni meilleure ni moins bonne qu'une autre, hein, consiste justement à épuiser un lieu qui est structuré a priori par ses frontières d'arrondissement. Alors, je n'ai quand même pas poussé le vice jusqu'à m'installer dans l'un des endroits les plus enclavés, alors que j'ai découvert récemment, qui est, je ne sais pas si vous le voyez sur le plan, au nord de l'arrondissement, l'impasse Marteau. Je ne sais pas si vous connaissez cet endroit, c'est assez extraordinaire. C'est une petite impasse qui est coincée entre le boulevard périphérique et le cimetière parisien de la Chapelle. C'est un endroit, enfin, je vous conseille d'y aller, c'est quand même assez intéressant. Il y a des barres d'habitation, hein, et c'est un endroit vraiment totalement enclavé. On peut en sortir évidemment, mais enfin c'est assez compliqué puisqu'il faut franchir des espaces vraiment ingrats, c'est le moins qu'on puisse dire. C'est un endroit d'ailleurs qui a été marqué historiquement par un bombardement en avril 1944, le bombardement du dépôt de la chapelle qui a fait quand même 642 morts. Il y a une plaque commémorative dans cet endroit qui a été un peu réhabilité, mais qui est assez fascinant parce qu'il jouxte un cimetière, le cimetière de la chapelle, et qui est dans une sorte de jungle urbaine tout à fait étonnante. Bon. Et troisième élément, donc le prix du mètre carré, le caractère d'enclave. Troisième élément qui m'a attiré, c'est le côté vide du quartier, que vous voyez bien là représenté quand même sur ce plan, bon, qui est un peu ancien déjà, mais qui, comme vous le voyez, est rempli de blanc. Enfin, c'est un coin dans lequel il y a beaucoup de zones blanches. Et ici, hein, je renvoie au très beau livre de Philippe Vasset, le livre blanc, hein, qui a décrit un petit peu ces zones et que j'aime beaucoup. Alors ces zones sont liées, évidemment, ces zones blanches sont liées aux voies ferrées, aux dépôts et à toute l'infrastructure de la SNCF, hein, les dépôts de la chapelle, les anciens gazomètres. Alors tout ça a libéré de l'espace, évidemment, maintenant, avec des jardins, des chantiers. Il y a quand même un aspect vide et qui est assez séduisant par le caractère, je dirais, un peu berlinois du quartier. En ce sens que, évidemment, à Berlin, l'histoire ayant fait ce qu'elle a dû faire, il y a de l'espace. Et c'est une perception que je retrouve dans ce coin de Marx-Dormois, de la chapelle, qui est certes dense, mais qui est quand même moins dense, en ce sens qu'il y a de larges espaces vides. On en a un très bon sentiment, je ne sais pas si vous voyez, notamment les jardins Éole, par exemple, qu'on voit du côté de la rue d'Aubervilliers. Et là, il y a vraiment eu un travail, je dirais, de profondeur de champ de l'espace, et notamment avec les projets de Michel Corajou, hein, qui a dessiné ce jardin, ces jardins Éole, et qui épouse l'horizontalité de la SNCF, enfin, des voies de la SNCF, et qui crée vraiment un sentiment aérien, on pourrait dire. Bref, j'ai eu un sentiment d'espace que je n'avais évidemment pas dans le 10e arrondissement, qui est un arrondissement évidemment très dense et très fermé sur lui-même. Donc le prix du mètre carré, le sentiment d'isolement et l'espace sont les trois piliers de ce triangle de choix du 18e. Or, voici que ces trois raisons se sont retournées en leur contraire et ont contribué à me désaffectionner de ce quartier que j'avais choisi enfin, aussi vite que je m'étais entiché de lui. C'est un petit peu problématique. C'est la raison pour laquelle je vous ai dit que j'allais sans doute le quitter. Le premier point, évidemment, c'est le prix du mètre carré, dont j'ai dit qu'il était relativement bas. Il a une contrepartie massive, évidemment, c'est que La Chapelle est un quartier pauvre, est un quartier dur. C'est un quartier à la pauvreté de laquelle je ne m'attendais pas autant. Et donc il y a cet aspect objectif de la pauvreté qui, je dois le dire là en toute honnêteté, c'est-à-dire en tout bourgeoisisme, en un sens, me fatigue, me frappe par le caractère détonnant par rapport à tous les autres coins de Paris. C'est vraiment le quartier qui reste, disons, voilà, qui cumule, disons, une pauvreté, alors une saleté, au sens où ce n'est pas le problème majeur, mais c'est quand même un problème, et parfois aussi une forme de laideur qui est le reliquat, évidemment, de ces composantes, notamment dans quelques ratages, dans quelques grands ratages années 60-70, si on pense à la Porte de la Chapelle, par exemple, et notamment les deux grandes tours que vous voyez peut-être, qui sont les tours de Samsung, enfin, qui se trouvent à la Porte de la Chapelle, qui sont les tours de Remondet, architecte, disons, assez proche du pouvoir gaulliste, me semble-t-il, puisque ce sont des tours qui ont été construites en 67, mais là, je laisserai aux spécialistes. Bon, Remondet, qui a quand même fait l'ambassade de France aux États-Unis, mais Jean-Louis est parti. Bon, enfin, bref. Donc, voilà, il y a quand même des traces un petit peu déplaisantes, ou bien, par exemple, aussi, toute cette grande zone qui s'appelle Cap 18, que vous verrez dans le petit film que je vais vous montrer à la fin de ma communication. Je prendrai les 5 dernières minutes où j'arrêterai de parler et je vous montrerai un petit film où vous verrez, par exemple, la zone Cap 18, qui est une zone industrielle qui a été créée sous Chirac. Le quartier a aussi été massivement construit dans les années 80 avec cette zone Cap 18 et toute une zone d'aménagement concerté, la ZAC Évangile. On n'a pas beaucoup parlé du nom de Guy Debord, mais je rappelle que Guy Debord propose d'effacer les noms sales des rues, ou les noms des rues sales, dans ces fameux projets d'embellissement rationnel de la ville de Paris. Et donc la rue de l'Évangile, la rue de l'Évangile a donc été quand même reconfigurée par l'architecte Gillot, qui est encore de ce monde, il est né en 1927, et qui a reconfiguré tout ce quartier dans les années 80. Il a vraiment une mainmise là sur toute cette partie du territoire. Deuxième point qui s'est renversé en son contraire, c'est l'enclave qui me séduisait il y a 12 minutes et il y a 3 ans, me séduit beaucoup moins parce que effectivement, à l'usage, et là je parle en piéton, en usager du quartier, c'est un usage pénible car, comme je le disais, c'est un quartier dont on sort difficilement. Il n'est desservi que par une seule station de métro, Marx-Dormois, qui est évidemment très mal conçu puisqu'il n'y a qu'une seule sortie, alors qu'évidemment il y a une densité très très forte à Marx-Dormois. C'est le contraire de Chardon-Lagache où vous avez deux sorties mais il n'y a personne. Enfin bon, c'est-à-dire, j'ai toujours fasciné évidemment par ces inégalités structurelles. Je parle de Chardon-Lagache puisque je vous ai dit que j'avais vécu dans le 16e et que je connais bien cette station qui est la moins fréquentée de Paris. Bref. C'est une ligne traître en plus, la ligne 12. Je l'ai découverte à cet usage. Parce que si vous voulez vous rendre de chez moi, donc Marx-Dormois au Collège de France, vous pouvez prendre la ligne 12 en changeant à Sèvres-Babylone. Mais il vous faudra utiliser 15 stations plus un changement à Sèvres-Babylone et faire deux stations jusqu'à Cluny. C'est-à-dire qu'il y a un effet psychologique assez désastreux qui est qu'au lieu de faire une ligne verticale, la ligne 12, si vous voulez, pour aller au centre de Paris, en quelque sorte, fait une sorte d'espèce de boucle extrêmement longue. C'est absolument interminable et c'est en la fréquentant, finalement, cette ligne 12 que j'ai vu son caractère traître. Il y a notamment 4 stations qui desservent le 9e arrondissement, Saint-Georges, Notre-Dame-de-Lorette, Trinité, c'est extrêmement long, si vous voulez, et ça correspond à un côté un peu 1900 du métro, si vous voulez. Hein, bon. Comment on fait donc pour aller au Collège de France? Eh bien, il y a jusqu'à 2 ans, le 38 est enfin arrivé, mais il y a 2 ans seulement. Jusqu'à 2 ans, il n'y avait pas de bus, il n'y a que la ligne 12, ou bien 2 bus qui desservent de manière aussi assez interminable l'Est parisien, le 60, et le 35, qui est sans doute le bus le plus pauvre de Paris, qui va de la gare du Nord à Aubervilliers. C'est une expérience évidemment assez fascinante d'un point de vue ethnographique que de prendre le 35, hein, car c'est un bus dans lequel je suis toujours le seul blanc. Bon, donc voilà, c'est-à-dire il y a cet aspect-là évidemment hein, qui est assez intéressant quand même à voir. Et puis enfin, la viduité, pour reprendre un mot de Chateaubriand, n'est-ce pas, eh bien la viduité du quartier est relative en ce sens que, évidemment, il est promis, ce vide est promis à être rempli. Et donc, il y a, évidemment, il va y avoir une sorte de construction massive du quartier. Et parfois, par exemple, il y a aussi des pièges ou des traîtrises, comme ces fameux jardins éoles, qui sont conceptuellement très intéressants. Enfin, Corajou les a très intelligemment conceptualisés. À l'usage, ils sont pratiquement impraticables, puisque les jardins éoles, qui se situent donc en bordure des voies ferrées et de la rue d'Aubervilliers, sont des jardins qui sont entièrement, aux mains d'une centaine de drogués, qui colonisent absolument totalement le jardin. Et c'est un jardin où il est vraiment assez difficile. Il y a un côté un peu Central Park années 70, si vous voulez, et qui est du coup, évidemment, enfin, si vous voulez, il y a une sorte de décalage entre l'intention conceptuelle qui est assez intéressante et l'usage du jardin qui est vraiment difficile, quoi. Bon. Bref, une déception que j'appellerais un peu post-bourgeoise, donc, et que, encore une fois, je suis obligé, que je ne peux pas cacher, en quelque sorte, hein, de ce point de vue-là, dû au fait que cet éloignement m'a jeté un peu dans une sorte de désarroi, au sens où je ne me suis pas vraiment fait au quartier, hein, et où, et bien sûr, cette gentrification, dont je suis évidemment le symptôme, puisque j'arrive dans un quartier que je vais gentrifier par ma propre présence, mais je fais évidemment partie du problème que je dénonce, c'est-à-dire, c'est toujours la même histoire, cette gentrification, je la condamne et je la redoute, et je la souhaite en même temps. Il y a une espèce de double tenaille qui me semble être, un problème insoluble. On pourrait dire ça comme ça. Voilà, donc il est probable hein, que je parte pour ces raisons-là. Mais évidemment, je ne voudrais pas terminer sur une note négative, et c'est la raison pour laquelle je vais très bientôt céder la parole aux images. C'est que, en fait, ce quartier, qu'est-ce qui m'a amené dans ce quartier ? Je crois qu'il y a une raison secrète beaucoup plus positive. C'est qu'il comporte évidemment des avantages certains, c'est que c'est un quartier d'avenir, tout simplement. Alors peut-être pas au sens où De Gaulle disait du Brésil que c'est un pays d'avenir et qu'il restera, j'espère que non, je ne crois pas. non, je pense que c'est un quartier, au fond, qui est amené, enfin, et c'est déjà, j'en mesure les effets tous les jours, et nous en mesurons tous les effets, à se transformer de fond en comble, eu égard précisément donc à sa pauvreté, à ses espaces libres, qu'il contient, et donc à son foncier plutôt peu élevé, qui permet aussi de grands projets. Et de fait, il est l'objet d'une véritable métamorphose, qui est assez excitante, assez exaltante, d'une inflation de projets et de chantiers en cours, qui vont de pair d'ailleurs avec l'aménagement du Grand Paris. Alors, sans du tout porter de jugement sur ces réalisations, car ça nous engagerait bien, bien trop loin, et puis voilà, j'en cite quelques-unes. Hein, par exemple, le programme ordinaire Charles de Gaulle, qui est vraiment à côté de chez moi, à Marcadet-Poissonnier, à une station de métro, la ligne directe pour aller à Roissy, et qui va, s'accommoder également de programmes de logement. Le programme qui est déjà en grande partie réalisé de la Chapelle internationale, avec des réalisations, notamment l'architecte Jamel Clouche, qui a fait des choses assez intéressantes, je trouve. On attend l'ouverture du campus Condorcet, aussi, sur les sciences humaines, notamment. Bon, un projet plus contestable, en tout cas, en ce qui ne m'intéresse pas, c'est la création d'un stade sport et culture, l'aréna, le fameux aréna, mais enfin, bon, ça, tout ça fait partie d'un, si vous voulez, de construction massive. Tout à côté de chez moi, donc rue de l'Évangile, vous avez le projet Fillette, c'est-à-dire la rue des Fillettes, avec un programme d'habitation très volumineux, et notamment des réalisations d'un architecte que j'ai découvert qui s'appelle Armand Nouvet, que je trouve très intéressant, et qui fait de l'habitat justement assez minimal, de l'habitat de qualité minimale, qui est vraiment tout à fait intéressant. Et puis à côté de chez moi aussi le parc Chapelle Charbon, qui n'est pas encore tout à fait fini, que vous verrez un petit peu dans le film que je vais vous montrer, et qui aussi fait partie de cette réhabilitation donne une note quand même extrêmement dynamique à cet endroit. Et je voudrais terminer là-dessus, hein. Il y a une mise en valeur qui témoigne d'une volonté de transformation, qui fait de ce Paris, de ce nouveau quartier de Paris, un Paris qui n'est pas Paris tout en étant Paris. Au fond, c'est ça qui m'intéresse, je trouve, et qui contraste très fortement avec tout le Paris que nous connaissons par ailleurs. Et donc c'est un avantage objectif majeur qui est d'échapper au Paris, disons, que nous connaissons tous, un Paris quand même étouffé, étouffant, sclérosé, ancien, haussmannien. Et donc cette logique du devenir, elle est bien sûr ambiguë, on pourrait dire, puisque cette notion de modernisation se révélerait un peu, si on veut la comparer au pharmacon de Derrida, à la fois évidemment souhaitable et non pas souhaitable, enfin, c'est-à-dire au sens où elle est à la fois, cette modernisation est à la fois un remède et un poison, elle est nécessaire, mais évidemment elle pose aussi tout un ensemble de problèmes éthiques, politiques, sociaux, etc. Voilà, en fait, je pourrais conclure, et maintenant je vous montrer les images. C'est un quartier finalement que je trouve très intéressant d'un point de vue de son devenir, de sa métamorphose. C'est un quartier dans lequel j'arrive trop tard. C'est-à-dire, j'adorerais ce quartier si j'avais 35 ans. Et voilà, je ne les ai plus, donc je vais partir. Alors, pour vous donner une idée un petit peu de ce quartier, que vous connaissez peut-être déjà un petit peu, au fond, j'ai participé à... alors, j'ai appelé ça coin russe, parce qu'il y a toute une toponymie, une onomastique qui a été faite d'ailleurs assez tardivement des compositeurs russes. Et je vais vous montrer ce film. Alors, ce film dure 5 minutes. Je termine là-dessus. Il est sans parole. J'ai coupé mon commentaire parce que, bon, c'est juste... Les images sont très belles. C'est un film de Stéphane Kornik. Et je vais vous le montrer. Voilà. Oui, oui, c'est dans le cadre, bah, vous allez voir Grand Paris des écrivains. C'est un peu, tu vois, enfin...
C'est le projet du Palais National.
Voilà, voilà, oui, oui, je...
Passe sans grand écran, si tu...
Ah, mince, oui, bien sûr, en bas à droite. Hein. Bon, voilà, je vous laisse comme ça. Hein.